Bible,
dans l'évangile de Jean, chapitre 13, la vie chrétienne a commencé pour les premiers chrétiens avec la présence de Jésus. C'est lui qui est venu prêcher que le royaume de Dieu était arrivé en sa personne. Et ils ont vu le Sauveur. Jean dit dans sa première épître que nous vous annonçons ce que nous avons entendu de nos oreilles, ce que nous avons touché de nos mains et vu concernant la parole de vie. Et il est parti. Et nous, notre vie chrétienne est très différente de ce que nous lisons dans les évangiles. Nous cheminons avec Jésus-Christ, mais il n'est pas là physiquement. Et oh, quelle différence ça crée! Nous vivons par la foi sur ce rapport et non pas par la vue. Et dans Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 17, que nous étudions, nous sommes arrivés à la fin du chapitre 13 maintenant, le Seigneur fait ses derniers discours à ses disciples avant d'aller au Père. Et le souci du Seigneur, c'est de nous apprendre comment vivre avec lui quand il n'est pas là physiquement. Quels sont les défis, quelles sont les provisions que le Seigneur fait. Quelles sont les orientations que nous devons prendre, nous, afin de vivre avec Christ, présent dans l'esprit, mais absent dans le corps? Et je vous assure que ce défi est bien plus grand que nous ne puissions imaginer. J'essaie de penser aux premiers disciples. Et la transition entre ces 3 ans intimement avec lui, voyant ses miracles, l'ayant à côté pour toute extrémité, l'ayant lui dans la barque lorsque l'orage vient. Et cette transition de vivre par la foi d'une nouvelle manière. Quel changement énorme pour eux. Mais nous aussi, nous devons vivre dans cette situation et il y a des choses cruciales que nous devons comprendre afin de vivre bien en attendant sa venue. Nous sommes donc dans cette chambre haute. C'est la nuit avant la crucifixion de notre Seigneur. Judas Iscariote vient d'être renvoyé de la pièce par le Seigneur, qui lui a dit « Ce que tu fais, fais-le vite. » Et avec le départ de Judas, il y a comme un ouf. L'élément étranger, l'intrus, est parti. Je ne sais pas si vous avez jamais été dans une situation où c'est vous et vos intimes et quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie et qui est plutôt un élément qui vous empêche d'être vous-même dans le groupe intime. Et lorsque cette personne part, maintenant vous pouvez vraiment parler de choses entre vous. Et c'est ce que nous voyons au tout début de notre passage dans le verset 31. Donc, nous lisons aujourd'hui les versets 31 à 38 du chapitre 13. Jean, l'apôtre Jean qui était là, nous dit ceci. « Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Plutôt, il faut lire ça au présent. C'est un temps de verbe en grec qui peut être dans le passé, mais qui peut aussi être compris comme un présent ou même un futur parfois. Et ici, il vaut mieux le traduire Dieu. Le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. En fait, Jésus parle de la croix qui arrive. Mais il veut dire que maintenant que Judas est sorti et qu'il va me trahir, maintenant les choses, les cartes sont cuites, pour ainsi dire. Les dés sont jetés. Et c'est moi qui l'ai envoyé, c'est moi qui ai mise en route ces événements qui vont se passer. Maintenant donc, le Fils de l'homme est glorifié, parce que je suis maintenant dans le début de ma passion. Ok? Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. On parlera de tout ça tout à l'heure. Donc, ça, c'est la première chose que Jésus dit. Il va dire trois choses. Je les appelle les trois phrases. Les trois phrases, parce que c'est avec ces trois phrases que va débuter la partie très intime de cette soirée, qui va commencer au chapitre 14 avec un discours un peu entrecoupé de dialogue, suivi par une sortie de la pièce pour aller dans le jardin de Gethsemane, où Jésus, en route, et peut-être là, va donner un deuxième discours qui ne sera pas entrecoupé de dialogue, mais tout le monde va plutôt se taire, et il va dire des choses encore plus profondes et plus solennelles. D'accord? Mais tout cela commence ici par trois phrases. Dès que Judas sort, Jésus met son doigt sur trois choses sur lequel il va revenir constamment dans les chapitres 14, 15 et 16. Dans la première, c'est sa glorification à la croix, son départ, sa victoire. Deuxième chose, deuxième phrase, verset 33. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Troisième phrase. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et maintenant, Pierre va relever une de ces phrases. Il ne va pas faire tilt sur ce commandement d'amour. Il va plutôt revenir sur le fait que Jésus s'en va. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Rappelez-vous qu'il a dit dans le verset 33, « Petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous, et vous me chercherez, vous ne pouvez pas me suivre. »« Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? » Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? » en vérité, je te le dis, le coq ne chantera point que tu m'aies renié trois fois. » Un point d'appui, une peine à endurer, une poursuite à faire. Les trois P pour les trois phrases, pour que vous puissiez vous rappeler. Nous avons un besoin d'un point d'appui. dans la vie. Un point d'appui, il y a un ancien grec qui a dit, ah, oh, je devais trouver cette citation avant de venir, mais il a dit quelque chose comme s'il pouvait trouver un point de levier, il pouvait bouger le monde entier. Quand on travaille en construction, un point d'ancrage pour une machine qui doit lever un poids, c'est ce point qui, tout dépend de là. Si le point est solide et si la machine est ancrée dans ce point, il peut faire tout ce qu'il doit faire. Mais vous aussi et moi, nous avons besoin du bon point d'appui pour toute notre vie chrétienne. Et c'est de là que Jésus parle en premier dans ces versets 31 et 32. Nous devons bien comprendre quel est le centre de notre vie chrétienne, quel est le centre de votre vie chrétienne. Et Jésus dit ceci, dès que Judas est parti, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Et si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Il parle du Fils de l'homme. C'est pour cela que nous avons lu Daniel 7 dans notre culte aujourd'hui. Le Fils de l'homme, j'ai vu quelqu'un qui ressemble à un Fils de l'homme qui venait sur les nuées à l'ancien des jours. Lorsque Jésus prend ce terme pour parler de lui-même et il dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié, il est en train de dire, c'est moi la figure de Daniel 7. C'est moi ce Messie qui est homme, mais qui vient sur les nuées pour prendre le trône sur tous les peuples, qui est l'égal du Très-Haut. Cette figure mystérieuse, c'est moi-même. Alors, quand Jésus dit, le Fils de l'homme est glorifié maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Glorifié, c'est un mot que les chrétiens, on jette ça un peu partout, n'est-ce pas? On chante ça, parfois sans comprendre ce que c'est. La gloire de Dieu dans la Bible, c'est la manifestation visible ou palpable de la présence et de la puissance et de l'excellence du Dieu transcendant. Sa gloire, c'est lorsque Dieu montre qu'il est. Parfois, on utilise aussi le mot glorifié. Donc, glorifié dans ce premier sens que je viens de vous expliquer, c'est lorsqu'il dit le Fils de l'homme est glorifié, il veut dire que je vais maintenant. Ah, dans cette période des heures qui suivent, et surtout à la croix, je vais montrer au grand jour, je vais faire voir, je vais aller en public avec toute ma gloire, toute la grandeur, ma splendeur en tant que fils de Dieu. Vous allez le voir lorsque je pends en ignominie sur cette croix du calvaire. C'est tellement étonnant, n'est-ce pas, pour nous? En tant que nous aurions pensé que la gloire de Dieu se manifeste par de grands miracles, n'est-ce pas? Mais la plus grande gloire de Dieu, c'est son amour compatissant, incroyable, qui le pousse à venir, devenir homme et pendre sur une croix en portant nos péchés contre lui. Il les porte sur lui-même. Il en souffre jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est inouï, c'est incroyable. C'est une splendeur d'un être qui est complètement autre, dans une bonté inimaginable. Et c'est à la croix que nous voyons cela, surtout, chers chrétiens. Vous avez besoin, plus que toute autre chose, de voir la gloire de Dieu. Et non pas comme une chose là-bas, mais comme une chose qui est pour vous. Dieu vient dans sa gloire vous sauver. Cette gloire, c'est pour vous. Il fait éclater toute sa bonté envers vous. Vous avez besoin de voir cette gloire. Et quand vous ne voyez pas cette gloire de la grâce et le merveilleux amour de Dieu pour vous, vous fanez spirituellement. De jour en jour dans la vie chrétienne, il doit y avoir un point d'appui où vous pouvez encore voir et vous fortifier, vous ressourcer en goûtant de cette glorieuse grâce de Dieu pour vous. Et ce point d'appui, c'est pas ici, c'est pas maintenant, c'est là-bas au calvaire, c'est il y a 2000 ans à cette croix. Le point d'appui de votre vie chrétienne sur lequel vous pouvez rester ferme, avoir la joie et connaître de jour en jour Dieu-même, c'est en allant toujours par la foi à cette croix, encore et encore. Jésus parle en fait de deux moments de glorification. Vous l'avez remarqué. Premièrement, il dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Maintenant, à la croix, le Christ montre qui il est dans la splendeur de son amour et ça montre aussi la splendeur de l'amour du Père qui l'envoie. Mais ensuite, il dit, et si Dieu est glorifié en moi à cette croix, si le Père est glorifié en moi à cette croix, le Père aussi me glorifiera et il me glorifiera bientôt. Là, il parle de la résurrection et de l'ascension. Si je fais éclater ma gloire et je glorifie Dieu en faisant ce qu'il me dit, alors Dieu va me glorifier et m'honorer en m'amenant dans la présence indescriptible de sa gloire, en tant que fils de Dieu et fils de l'homme. Quelqu'un a dit, comme Dieu a été glorifié dans l'œuvre du Sauveur Jésus, il le glorifie Jésus dans la bénédiction éternelle de sa présence. C'est ça qu'il veut dire. Si vous voulez, nous pouvons rapidement regarder le chapitre 17 où Jésus reparle de ces deux mêmes aspects de glorification. Il se glorifie à la croix. Et il se glorifie en étant ressuscité, glorifié dans sa, transformé dans son humanité au moment de l'ascension. Verset 1 du chapitre 17. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Il parle de la croix là. Laisse-moi aller. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Il prie comme si la croix est déjà passée. D'accord? Il se projette en avant. Maintenant, ça y est, c'est plus ou moins fini le truc. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Ressuscite-moi et monte-moi auprès de toi, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Voilà. Donc Jésus est glorifié dans l'ignominie de la croix et il est glorifié dans l'exaltation de son ascension et son siège à la droite du Père. Je m'arrête là juste pour vous donner cette application. Pourquoi est-ce que nous en parlons? Parce que nous pouvons être tentés inconsciemment, d'essayer de trouver un point d'appui, un point central pour notre vie chrétienne dans notre vie chrétienne. Je veux dire par là que je me regarde trop. Et les vacillations, les hauts et les bas de ma vie chrétienne deviennent un peu tout mon horizon. Si ça va bien dans ma vie chrétienne, je réussis, alors je suis bien. Si ça va moins bien, alors moi je suis dans la déprime. Et ça, c'est le vécu de quelqu'un qui est trop subjectif et dont le centre de sa vie n'est pas Christ et sa croix, mais sa propre réussite chrétienne. Et c'est un grand, grand danger pour nous. Parce que, chers amis, vous allez vaciller. Vous allez vaciller. Nous sommes en route. Nous sommes des malades qui sont à l'hôpital. Dieu est en train de nous guérir. Mais il y a des jours à l'hôpital où tu sens mieux et tu sens, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas encore au paradis. Et dans ce pèlerinage, notre point d'appui, notre joie, c'est que la gloire de Dieu, nous le voyons dans la croix. Nous voyons l'amour de Christ pour nous aujourd'hui par ce qu'il a fait là-bas. Et ça ne change pas. Cette gloire est manifestée une fois pour toutes et nous vivons cela, de cela. Paul le dit comme ceci dans les Romains 8. Regardez bien, le point culminant de Romains 8, ayant parlé de toutes les bénédictions de Dieu envers nous, tout ce que nous avons comme richesse spirituelle, il dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, dans le présent de ma vie chrétienne de tous les jours, qui sera contre nous? Et voilà comment il le prouve. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? S'il y a l'amour de la croix, si Dieu donne son fils à une croix, comment est-ce qu'il ne peut pas donner des petites choses dont vous avez besoin aujourd'hui? Parce que tout est petit, tout est minuscule à côté de ce qu'il vous a déjà donné. Et donc, vous voyez à quel point vous devez rester fermement attaché à ce que Dieu a fait pour vous à la croix. Parce que là, c'est la mesure de son amour pour vous. La mesure de son amour n'est pas ce qu'il a fait pour vous hier, lorsque vous ne pouviez pas trouver un parking. Et vous avez prié, Seigneur, trouve-moi un parking. Et il ne vous a pas donné un parking parce qu'il voulait que vous viviez comme tout le monde. N'est-ce pas? L'amour de Dieu, la mesure de l'amour de Dieu n'est pas dans votre présent et dans votre providence, dans les hauts et les bas que nous devons tous vivre. La mesure de l'amour de Dieu pour vous est là, cette croix. Ça ne change pas. Et vous devez avoir cela comme point d'appui. OK. Deuxième phrase, deuxième réalité. Le point d'appui est maintenant la peine. La peine à endurer. La grande peine. Verset 33. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez pas venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Et puis je saute jusqu'au verset 36. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, là où je vais, tu ne peux pas venir me suivre. Tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. Jésus vient de parler, mettons-nous dans la scène. Judas est parti, Jésus se lâche maintenant parce qu'on peut parler entre intimes. Et Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié. Il est en train de penser à cette croix et cette résurrection, à cet accomplissement du salut tant attendu, n'est-ce pas? Le point tournant de l'histoire tout entière, et à quelques heures d'ici, maintenant on y entre. Et dès qu'il a fini de dire ça, le Fils de l'homme glorifié, il dit, petits enfants. Il pense à son chemin et sa croix, mais pas autant qu'il oublie ce que ça va vouloir dire pour ses disciples. La difficulté, la peine, le choc que le Seigneur va partir. Il est incroyable, le Seigneur. Au milieu de ce qui va lui arriver, il dit, Tekia. c'est-à-dire petits-enfants. La seule fois que Jésus emploie ce mot, c'est difficile à traduire, c'est pas exactement petits-enfants, c'est un diminutif du mot enfant, mais qui veut dire chers enfants. Mes chers enfants. Et donc, il pense à eux et il doit rendre explicite et claire pour eux cette vérité de la séparation qui va maintenant s'effectuer. Donc, il le dit explicitement, il en parle depuis longtemps, qu'il va mourir, qu'il va ressusciter, mais ils n'ont pas compris. Mais cette fois, il dit, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez là où je vais, vous ne pourrez pas me suivre. Tout doit être clair maintenant, parce que les choses vont s'enchaîner rapidement. Et Jésus veut les préparer. Et cette séparation est comme un peu, vous pouvez imaginer, et parfois on entend l'histoire d'une dame qui épouse un militaire, et 3 semaines après le mariage, il doit aller effectuer 6 mois dans un pays lointain, n'est-ce pas? Et elle a une peine. Le début de sa vie de mariée est peiné. Elle est mariée, il y a quelque chose de formidable qui s'est passé, mais il est parti. Il n'est pas là. Et elle doit vivre maintenant dans l'attente. Et c'est un peu comme ça pour nous, n'est-ce pas? Nous sommes mariés au Seigneur, nous sommes sauvés, nous sommes joints à lui. Mais nous ne vivons pas la normalité du salut, c'est-à-dire la normalité complète. Ce que tu as maintenant dans le salut, dans la vie chrétienne, c'est pas ça que tu voulais en venant à Christ. Tu vas pas te limiter à ça. La femme avec son mari, c'est pas pour ça que je l'ai épousée. Cette vie de le voir sur FaceTime 2 fois par semaine, c'est ça le mariage? Bien sûr, c'est pas le mariage. Et c'est ça la vie chrétienne ici et maintenant. C'est un temps de peine, d'attente peinée, mais très nécessaire. Cette séparation fait même partie du processus du salut. Parce que, en devenant chrétien, tu t'es joint à Christ. Ce qui est à lui est à toi. Alors lui, c'est les souffrances suivies par les gloires. Alors, une fois que vous devenez partie de son corps, pour vous, il faut que ce soit comme ça aussi. Vous aurez un temps de souffrance afin d'aimer, de sauver les autres, suivi par l'arrivée avec ces autres dans sa présence. Jésus a dû quitter le Père. Séparation pour vous sauver. Vous devez vivre la séparation avec le Sauveur afin d'être utilisé par lui pour sauver d'autres. J'essaie de voir ce que je vais couper là. Application. Il y a 2 applications que nous devons faire vraiment par rapport à cette deuxième réalité, que le Seigneur n'est pas là physiquement. La première, c'est facile, c'est que ce monde n'est pas notre dernier espoir, notre meilleur espoir. Ça, c'est facile. La vie chrétienne sur terre n'est pas la destination, n'est pas la finalité. Cette vie chrétienne ici-bas, c'est l'endroit de notre appel présent. C'est l'endroit de notre appel. C'est une vocation. Et comme c'est une vocation divine, elle est pleine de belles opportunités. ce service ici-bas, c'est incroyable de pouvoir servir le Seigneur. Et de suivre les traces du Christ qui quitte le Père, qui vit une séparation afin de bénir les autres. C'est plein de joie et de privilèges avec la peine. Mais c'est un pèlerinage. C'est donc bien si vous vous trouvez parfois tiraillé entre deux désirs forts. Le désir de retrouver le Seigneur, le Sauveur enfin, et le désir de rester ici et de servir parce qu'il y a tant de choses à faire pour lui. C'est ce tiraillement de deux désirs positifs, je souligne deux désirs positifs, que Paul explique lorsqu'il est en prison et il ne sait pas s'il va survivre ou pas. Il dit ceci, « Cela m'a fait ma tente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Donc c'est bien d'avoir ce tiraillement de deux bonnes choses. Mais attention, nous pouvons tordre et pervertir ces deux réalités. Je me souviens d'un chrétien expérimenté un jour qui est devenu vraiment amer dans sa vie chrétienne. Et il m'a dit un jour, les choses de la terre, il n'y a rien de bon ici. Je n'attends qu'une chose, c'est d'aller auprès du Seigneur. Mais pour lui, ce n'était pas un tiraillement entre deux désirs positifs. C'était simplement une attitude très négative vis-à-vis de la vie présente. Complètement négative, rien de bon. Et cela n'est pas une attitude pieuse et agréable au Seigneur. Donc, ce monde, cette vie chrétienne n'est pas notre espoir meilleur. Mais la deuxième chose que je dirais, c'est que puisque Jésus est parti physiquement, n'essayez pas de revivre les jours des évangiles. Et il y a des chrétiens qui pensent que tout ce qui se passe dans l'évangile, je dois pouvoir le revivre aujourd'hui. C'est presque un blasphème. Christ n'est pas là. Comment est-ce que toi, tu vas reproduire ce que lui seul peut être et faire? Est-ce que quelqu'un d'autre depuis Jésus a calmé une tempête avec une simple parole? Est-ce que quelqu'un d'autre a nourri plusieurs milliers de personnes par quelques poissons et quelques pains? Jamais. Personne n'a jamais fait de telles choses. Crois que disent certains qui parlent des plus grandes œuvres, et nous en parlerons parce que nous arriverons à ce passage. Ce n'est pas ça que Jésus voulait dire. Jésus a dit un jour à ses disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. » Voilà. Vous allez vouloir voir un de ces jours incomparables où Jésus guérit tout le monde dans un village un soir. Aveugle-né, boiteux, n'importe quoi, un des jours de Fils de l'homme. Et vous ne le verrez pas. Parce que nous ne sommes pas dans le même temps. Et nous devons accepter cela. Même si le Seigneur fait des miracles en réponse à nos prières. Nous ne revivrons pas les jours de la présence physique du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, à nous de ne pas pleurnicher avec nostalgie ou faire semblant d'être dans un temps où nous ne sommes pas. Poursuivons notre appel, veillons et prions et travaillons et attendons sa venue. Dernière chose, nous avons parlé d'un point d'appui qui est la croix, nous avons parlé d'une peine qui est son absence et comment le vivre, et maintenant la grande poursuite. Alors, dans le verset 34, Jésus dit ceci. Et on parlait de son départ, tout de suite il enchaîne par une autre une idée complètement différente. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est les mots importants. Ce n'est pas un commandement aimez-vous les uns les autres, banalité qu'on entend dans beaucoup d'églises tout le temps, tout le temps. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, un nouveau commandement. Qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? D'abord, il y a une nouvelle norme. L'amour commandé dans l'Ancien Testament est modéré comparé à ceci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il va dire dans quelques moments, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a une nouvelle norme. Dans la première épître de Jean, Jean dit ceci. Nous avons connu l'amour en ce que il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Alors là, nous avons quelque chose de nouveau dans toute l'histoire humaine. Je vous assure qu'avant que Jésus ne vienne, personne n'imaginait qu'il puisse y avoir une telle manière d'aimer. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a, il a donné sa vie pour nous. Avant ça, on n'a pas connu le vrai, l'amour entier. Et donc, avec cette révélation de Dieu et comment il aime, Christ a ouvert à vous et moi de nouvelles possibilités d'aimer d'une manière différente. Donc, une nouvelle norme, mais une nouvelle motivation qui n'était pas là avant. En 1 Jean 4, 19, pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et son amour pour nous fait quelque chose. Je ne sais même pas comment ça marche. Mais quand vous vous sentez aimé par Christ jusqu'à la mort de la croix, vous avez envie d'aimer de cette façon. Vous avez envie. Même si vous voyez que la chair rebute contre cela. Vous avez vu quelque chose de nouveau. Vous avez vu quelque chose d'admirable. Et vous voulez tendre vers cela. Nouvelle norme, nouvelle motivation, nouvelle puissance. Jean dit dans sa première épître, chapitre 3, verset 14, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il est en train de dire que Jésus est venu apporter dans l'existence humaine un amour complètement différent et nouveau. Mais quand il est parti, il n'a pas pris cet amour avec lui juste pour le ramener au ciel. Oh mince, l'amour a été venu pour quelques heures. Non, il est venu et par sa mort sur la croix, il commence une nouvelle ère, un nouveau monde. Dans son peuple, une nouvelle époque, une nouvelle puissance, un nouvel empire. Et maintenant, il envoie son esprit en nous pour reproduire petit à petit ce même amour en nous. C'est un amour dans la famille chrétienne. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Cet amour, vous aimez les autres en dehors de l'Église avec cet amour aussi, mais ce n'est pas réciproque. Mais ici, Jésus parle du fait que je commence une nouvelle communauté, famille par ma mort, et une nouvelle relation qui correspond à cette communauté. Et cette relation, c'est mutuellement un amour où on se donne complètement les uns pour les autres. On poursuit la bénédiction des autres jusqu'à subir le coup, un coup important. On n'aime pas tant que ça ne me coûte pas quelque chose, mais on aime nos frères et nos sœurs avec toute leur faiblesse. On les aime, on se donne à eux et on se sacrifie pour eux, tels qu'ils sont. Vous pouvez avoir peur que si c'est un amour entre chrétiens, ça va nous rendre renfermés en nous-mêmes. Ah, nous n'avons que lire la prochaine phrase. Jésus dit à ceci, verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le but, chers amis, et je veux tellement voir moi, pour moi-même et pour vous, cette église devenir un amour, un endroit où on s'aime d'une manière qui ne peut pas être expliquée sauf par le miracle de Jésus-Christ. Quand on vient dans ce lieu, quand les non-chrétiens viennent, c'est notre meilleur témoignage à eux. Rendez-vous compte, on peut montrer à n'importe quel chrétien, non-chrétien de cette région, un miracle. On peut lui montrer ça tous les dimanches. Les gens disent, je croirais si je verrais un miracle. Venez, venez dimanche. Venez un peu au sein de nous et vous en verrez un. C'est notre amour les uns pour les autres qui ne peut simplement pas être compris en dehors d'une nouveauté qui vient d'ailleurs. On parle banalement de l'amour, aimez-vous les uns les autres, mais là, vous êtes en train de voir que c'est plus profond que cela. On pourrait dire aux non-chrétiens, aimez-vous les uns les autres, mais moi, je parle d'autre chose. Je parle d'une chose eschatologique. Je parle d'une chose qui appartient à la fin des temps. Une chose qui ne peut venir que du ciel et qui montre au monde que le Christ est venu. Dans le deuxième siècle, il y avait un pasteur chrétien qui s'appelait Tertullien. Alors, Tertullien est fameux, c'est un des pères de l'Église. Il a vécu de l'année à peu près 155 jusqu'à l'année 240. Donc, il est très tôt dans l'histoire chrétienne. Nous avons encore certains de ses écrits, pas mal de ses écrits, en fait. Il a écrit beaucoup. Il était berbère, imaginez. Donc il vivait en Afrique du Nord. Et donc il a écrit ceci dans un livre qui s'appelle l'Apologétique. Et je cite. Mais c'est surtout cette pratique de la charité qui, aux yeux de quelques-uns, nous imprime comme une marque spéciale. Voyez, dit-on, comment ils s'aiment les uns les autres. Car eux se détestent les uns les autres. Voyez, dit-on, comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres, car eux sont plutôt prêts à se tuer les uns les autres. Ça, c'est dans le deuxième siècle. Déjà, les non-chrétiens sont en train de dire, c'est quand même étonnant. Et nous parlons beaucoup d'évangélisation, mais il n'y a pas d'évangélisation efficace. On ne peut pas amener les gens à la foi en Christ sans cet amour entre nous. C'est bizarre, n'est-ce pas? Que pour atteindre les autres, il faut que ce qui se passe entre nous soit vraiment en place. Et Jésus le comprenait. Si vous voulez que vos enfants admirent l'institution du mariage et désirent un jour se marier, ben la meilleure chose, c'est ayez un bon mariage. Ayez un mariage formidable et vous allez convaincre. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Et à côté de nos talents et nos dons, nos talents sont rien sans l'amour, n'est-ce pas? Vous pouvez, si je vous prêche de bons sermons, mais je ne suis pas intéressé par vous, et vous le sentez, vous allez dire, on a besoin d'un autre pasteur, n'est-ce pas? Sans l'amour, tout est vide. Tout est vidé. Et ce que Dieu veut, c'est ce caractère d'amour qui est la gloire de Dieu, qui resplendit à la croix, reproduit en nous-mêmes. Trois phrases. Un pivot, un point d'appui qui est la croix. Une peine que nous pouvons bien vivre en marchant avec foi avec le Seigneur. Et une poursuite, la poursuite de cet amour-là. Que le Seigneur nous aide. Nous allons chanter pour terminer notre culte dans le carnet noir, le chant Sois seule ma vision.